I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir Max, 31 ans. Max est né dans le mauvais corps. Des moments très douloureux de son adolescence à la confusion de son orientation, en passant par une sexualité unilatérale alors qu'il est encore dans son corps de naissance, altèrent son épanouissement et son expression de genre. Ce sont différentes précieuses rencontres qui aideront Max à prendre conscience de ce qui lui permettrait d'être enfin en phase avec son genre intrinsèque et sa sexualité. Il attendra l'approche de la trentaine pour sauter le pas, et c'est en seulement 3 années qu'il opérera sa transition. Sa compagne, véritable pilier de sa vie, l'accompagne aujourd'hui dans la découverte de sa position sociale d'homme et la reconnaissance en tant que telle. Je suis ravie du fond du cœur d'avoir recueilli l'histoire de Max, qui avec une grande générosité et sincérité vous livre son parcours. Merci à lui pour sa confiance, infiniment. Je vous laisse avec Max et notre discussion qui a été faite à distance parce qu'on n'arrivait pas à trouver un moment pour se rencontrer. Mais je pense que c'est un détail et que vous allez, j'espère, passer un très bon moment en notre compagnie. Cet épisode est avec Max, Max qui est à 31 ans, ça fait un an qu'on échange Max et moi. Salut Max, ça va ?
Salut, ça va et toi ?
Ouais, ça va. Tu m'as dit que ta copine était dehors, donc c'était maintenant.
Oui, c'est ça, il faut y aller maintenant.
Max, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Max, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Et donc, tu te doutes, ça fait longtemps que je réfléchis à cette question.
J'imagine.
voilà. Pour retrouver mon premier souvenir. Et en fait, il est revenu assez facilement. Je devais avoir, je pense, 5-6 ans, pas plus, ça c'est sûr. Je vivais dans le sud de la France à ce moment-là. Et j'avais un voisin qui vivait dans l'appartement en dessous du nôtre, avec qui avait mon âge et chez qui j'allais régulièrement jouer. Et un après-midi où j'étais chez lui, sa mère et je sais plus si c'était son père ou son beau-père, bref, son compagnon, nous disent on vous laisse jouer dans le salon tous les deux, nous on va faire la sieste. Et j'ai un souvenir très précis d'entendre des bruits qui provenaient de la chambre de ses parents. Nous on comprenait pas du tout ce qui se passait, mais avec le recul, j'ai bien compris ce qui se passait. On n'était pas inquiets en plus sur le coup d'entendre ces hurlements. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont sortis de la chambre, on leur a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu criais ?» Elle nous a répondu « Non, mais juste on jouait à se faire des chatouilles. » Mais avec le recul, je pense qu'effectivement, c'était pas des chatouilles.
Sacré chatouilles.
Et ouais, voilà, c'était des sacrés chatouilles qui, nous, en tout cas, nous posaient beaucoup de questions. On sentait qu'il y avait un truc un peu particulier qui se passait dans cette chambre et auquel on n'avait pas accès, en tout cas.
Tu te rappelles quel âge tu avais ?
Je pense que j'avais 5-6 ans. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant avec le recul de laisser 2 gamins pour aller faire ça à côté d'une manière peu silencieuse.
<C'est rire>
Parce qu'effectivement, on aurait pu débarquer dans la chambre et demander ce qui se passait.
Pas super.
On l'a pas fait. Mais ouais, c'est vraiment un souvenir, le premier souvenir. En tout cas, voilà, j'ai compris plus tard ce qui s'était passé ce jour-là. Ouais.
Est-ce qu'on parlait de sexualité librement chez toi ?
Non. Alors pourtant, j'ai une famille dans laquelle on peut parler de plein de choses librement. J'ai une mère psy, on vient d'un milieu où la parole est plutôt bien accueillie. Mais non, on n'a jamais parlé de sexualité. Alors ni avec mes parents, ni avec mes sœurs. J'ai 2 grandes sœurs. C'est vraiment un sujet dont on ne parle pas entre nous. Mais je pense que j'aurais pu, hein. Mais voilà, c'est jamais fait.
Mais du coup, comment ça se passe, toi, quand tu grandis ? Comment tu comprends à peu près les choses, les changements qui vont se passer en toi, sachant que sans spoiler, mais bon, on va vite en parler quand même. Ton processus, en tout cas à toi, est assez est atypique par rapport à jusqu'à maintenant ce qui a été dit dans On the Verge.
Oui, on va lever le mystère tout de suite. Donc effectivement, en fait, je suis un homme transgenre, donc à l'éveil de ma sexualité, je sais pas ce que ça a joué. Disons que moi, j'ai une sexualité qui a commencé très tôt. J'avais 14 ans, je crois, la première fois que j'ai eu des rapports avec une fille. Pour te dire, je m'en souviens même pas.
Ah oui?
Ouais, Alors je sais très bien avec qui je l'ai fait, et c'était l'époque de Caramel, et donc j'avais rencontré ma première copine là-dessus, parce que c'était compliqué pour moi de rencontrer des filles ailleurs. J'avais pas encore compris, en tout cas, ce qui se passait en moi, mais je pense que le premier rapport sexuel a été quelque chose de violent à ce moment-là pour ça, et je pense que c'est pas pour rien si je m'en souviens pas. Je D'accord. pense qu'il y a un peu une prise de conscience un peu violente qui s'est passée à ce moment-là, ou un truc hyper décevant, ou je me suis dit que c'était pas comme ça que j'aurais voulu le faire. Enfin, je pense vraiment qu'il y a eu un truc un peu qui s'est passé à ce moment-là qui fait que je m'en souviens pas.
Alors, avant cette première fois, quand ton ouais. corps commence à changer, la puberté ouais. arrive, et commence voilà à amener tout son lot de joyeuseté, ouais. comment tu te deals, toi, à ce moment-là, ce changement?
Mal. mal, sans arriver à nommer le mal, mais oui, j'ai eu une adolescence qui a été un cauchemar au moment où mon corps effectivement a changé, où j'ai eu des seins qui ont commencé à pousser, des formes, où je me cachais sous des tonnes d'habits très très grands, et j'achetais déjà des habits au rayon masculin, mais je m'automutilais beaucoup, enfin j'étais rentré dans un processus où mon corps m'était insupportable. Mais j'arrivais pas encore à nommer pourquoi il était insupportable.
Oui, puis c'est une période période où beaucoup justement, sont mal avec leur corps, donc c'est compliqué de mettre un curseur là-dessus.
C'est ça. Ouais, c'était compliqué de mettre, de pointer ça précisément du doigt. Et puis il y a 15 ans, en fait, on n'en parlait pas de transidentité. Mmh. Donc c'était aussi compliqué de pouvoir faire un parallèle avec ça. Donc la puberté globalement, c'est très mal passé pour moi. Mais ce qui m'a pas empêché de démarrer une sexualité trop tôt, mais je crois que c'était désincarné en fait. Et la sexualité, et mon corps, à un moment, je crois que j'avais fini par abandonner et fuir le rapport physique que je pouvais D'accord. entretenir avec les gens.
Et toi, ton rapport avec ton propre corps et ta propre sexualité, est-ce que parce que je vais sûrement commettre des impairs, et c'est vrai que ça, la transidentité, même si tu as raison, on en parle de plus en plus, et c'est super parce que les consciences s'éveillent là-dessus. Il y a encore, s'éveillent dessus, pardon. Il y a encore, il y a beaucoup de zones grises pour les gens qui ont cette chance d'être nés dans le bon corps, au bon endroit, au bon moment, tu vois, et qui sont en plus, qui ont en plus la chance d'avoir une sexualité qui est normée par la société. Donc c'est vrai que ces gens-là se posent pas trop de questions. Ou en tout cas, ont pas forcément les réponses. Donc vraiment, pardonne-moi si je commets des impairs, n'hésite pas à me remettre sur le chemin.
Mais t'inquiète pas.
Justement, voilà, quand tu commences, toi, à avoir ton corps qui change, peut-être du désir. Alors, tu le dis, à 14 ans, c'est avec une fille que tu as eu ta première relation sexuelle. Ouais. Donc, tu ne regardes pas du tout les garçons, c'est les filles qui t'excitent.
Non. Oui, ouais. Moi, ça a toujours été clair depuis. Là, pour le coup, je suis tout petit. Ça, il y a jamais eu de doute et d'interrogation là-dessus. J'ai toujours aimé les filles. Alors après, ce qui était compliqué pour moi à l'adolescence, c'est que, j'ai toujours aimé les filles hétéros. D'accord. Sauf que, à ce moment-là, j'étais pas perçu comme un garçon hétéro. Donc, ce qui a compliqué les choses. Mais ouais, moi, ça a toujours été les filles. Ça, il y a jamais eu de doute, ouais.
Donc à 14 ans, quand tu as cette première relation intime, donc je comprends qu'il n'y ait pas une histoire d'amour, hein, c'est plus une relation sexuelle. C'est une fille donc qui est lesbienne pour le coup et qui, elle, s'attend à faire l'amour avec une fille.
Oui.
Et c'est ça qui est déceptif pour toi ?
Pour les deux, je pense. Mais oui. Et puis je n'ai enchaîné que ça jusqu'à très récemment dans ma vie. Mais c'est hyper décevant. Et du coup, vu que c'est décevant, il y a un moment où je rentre aussi et toujours si jeune, hein, dans une espèce de consommation à la recherche d'un truc qui je comprends pas ce que je recherche, mais je cherche un truc. Donc du coup, je consomme.
En tout cas, t'es pas satisfait.
Non.
Ok. Donc ton rapport avec toi-même, avec ton propre sexe de, enfin ton appareil génital de naissance, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives aussi à dealer avec ou t'es en rejet? Comment ça se passe? Parce que pour le coup, avant notre entretien, j'ai dû, tu vois, un peu quand même pour savoir, mais évidemment, comme autant il y a de transgenres, autant il y a de rapports avec sa propre identité, son propre sexe, son propre corps. Il y en a qui effectivement sont dans un rejet total, d'autres qui ne se définissent pas parce qu'ils ont entre les jambes, donc du coup deal avec physiquement. Comment toi, tu arrives un peu à gérer ça? Parce que j'imagine, quand tu es un homme, effectivement, que tu vois des seins apparaître et des formes, ça doit être assez, enfin, ça doit être très perturbant.
Au niveau génital, enfin, si, en fait, j'ai complètement verrouillé la chose. C'était impossible pour moi d'être vu, d'être touché. J'avais une sexualité qui était à sens unique à ce moment-là, où vraiment ça ne pouvait pas exister. On pouvait pas s'en approcher, on pouvait pas le voir. Vraiment, il y avait rien de possible pendant très longtemps. Ouais.
Mais je comprends la dichotomie entre ce que tu es et ce que tu as. C'est vrai que tant que c'est pas aligné, ça doit être insurmontable. Et c'est là où effectivement. On commence un peu à prendre conscience de la douleur, de ce que ça peut être. Tu mentionnais que ta maman était psy. Est-ce qu'elle a pu t'aider à ce moment-là? Est-ce qu'elle a compris?
Alors, elle a pu m'aider, ouais, ça, bien sûr. Elle m'a traîné chez je ne sais combien de psy. Ce qui est étonnant, c'est que tous disaient à ma mère, il y a quelque chose, on ne comprend pas ce que c'est. Donc voilà, non, ma mère, à ce moment-là, en tout cas, quand j'étais ado, elle n'y a jamais pensé. Elle s'est jamais dit que ça pouvait venir de là. Elle voyait qu'il y avait un problème avec mon corps, elle voyait que j'avais une expression de genre qui était quand même masculine, mais à aucun moment, pour elle, ça, elle a fait le lien, quoi. Alors que quand j'ai fait mon coming out, tu vois, j'ai un coming out qui était assez récent, qui a 3 ans, là, tout de suite, il y a toutes les lumières qui sont allumées à tous les étages, quoi. Mais moment-là, non.
T'as fait ton coming out il y a 28 ans?
3 ans. Ouais, c'est ça.
Ah oui.
Ouais.
Ton coming out de trans.
Oui, parce que effectivement, j'ai fait un coming out de lesbienne à 14 ans, mais qui me convenait pas non plus. Encore, je crois, j'ai même pas fait un coming out de lesbienne. C'est même pas ça. C'est que je me suis senti obligé de faire un coming out, de dire j'aime les filles. Mais à aucun moment j'ai prononcé le mot lesbienne.
Oui.
Et à aucun moment, en fait, je me suis identifié. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes trans, dont des mecs trans, qui ont eu cette identité-là et qui la gardent encore maintenant. Mm-hmm. Mais, moi, ça a jamais été mon identité. Je me suis jamais reconnu là-dedans. Et c'est un mot que j'ai jamais voulu utiliser pour me définir. Et alors qu'à ce moment-là, j'avais pas encore mis en mots le fait que je sois trans, mais je savais déjà que c'était pas une identité qui me correspondait.
Ça a dû être tellement perturbant pour toi de devoir te mettre dans une case qui ne l'est pas, et en même temps pas savoir laquelle prendre, parce que finalement l'étiquette à ce moment-là, c'était il y a pas si longtemps, mais en même temps, comme tu dis, c'est vrai que c'est assez récent, en tout cas la prise de parole sur ces sujets-là. Et donc oui, t'as dû galérer à trouver effectivement les mots, les chemins, etc. Donc ok, donc là tu consommes, donc t'as 14 ans, donc tu commences ta vie sexuelle assez, enfin il y a pas de temporalité, mais en tout cas entre milieu d'adolescence, tu commences tout de suite à être actif sexuellement.
Ouais,
comment ça se passe, toi, côté cœur, quand même? Tu noues des relations sentimentales avec des filles?
Ouais, donc j'ai cette première expérience avec cette fille à 14 ans où effectivement j'étais pas amoureux, et puis rapidement ça se termine. Et puis à l'âge de 15 ans, ouais, là j'ai eu ma première vraie copine dont j'étais vraiment très très amoureux. À la base c'était sa sœur que je draguais, et puis un jour j'ai rencontré la petite sœur, et puis là ça a été à 15 ans déjà un petit coup de foudre. C'est vrai que c'était une chouette histoire où on était tous les deux très amoureux et très jeunes et très maladroits, et c'est un souvenir assez heureux que je garde de cette relation, même si ça s'est terminé parce que déjà on était très jeune, et puis parce que j'allais trop mal, et que quand t'as 15-16 ans, t'as pas envie de te trimballer quelqu'un qui va mal comme j'allais mal. Mais ça a duré un an quand même. Et non, c'était très chouette. Après, avec toujours cette sexualité à sens unique, quoi, pendant un an.
D'accord, donc ça a pas bougé. Un peu précis, même si évidemment tu mets les limites que tu veux dans ton discours, mais c'est-à-dire que c'est toi qui pratiques, si on va sur des pratiques entre deux corps de femmes, c'est toi qui pratiques le cunnilingus, mais tu veux pas le recevoir. Enfin, c'est que dans ce sens-là.
Pas de pénétration, pas de cunnilingus, rien du tout. Non.
Ok. Donc tu continues bon an mal an, en sachant qu'il y a un sujet en toi qui est complexe, mais t'arrives pas trop à le nommer. Donc là tu t'es au collège, t'es au lycée, et tu continues ces relations homosexuelles, enfin en tout cas au vu de la société.
Oui. Alors après, moi, j'ai été déscolarisé très tôt, donc ce qui m'a pas mal isolé aussi, parce que moi j'ai arrêté l'école en 4e.
À cause de ça?
Oui, parce que j'ai fait une dépression qui était effectivement du coup très très grave et du coup qui m'a déscolarisé. Et puis j'ai été harcelé au collège parce que les gens percevaient bien qu'il y avait quelque chose de différent chez moi. Et on sait bien qu'au collège, c'est pas là où c'est une force d'être différent. Donc ouais, j'ai arrêté l'école assez tôt, ce qui m'a pas mal isolé. Mais bon, je traînais toujours sur Caramel et j'arrivais à rencontrer des filles comme ça. Ouais, là-dessus, j'ai fait ça jusqu'à... Et là, j'ai dû arrêter Caramel. Je pense que je devais avoir ouais, 16-17 ans. Non, 16 ans, je pense. Après, j'ai rencontré des
Ok.
gens. Voilà, je suis parti dans un autre monde. Mais ouais, j'ai rencontré. Voilà, j'ai enchaîné des rencontres virtuelles de 14 à 16 ans.
Donc quand tu dis virtuel, c'est-à-dire que c'était que des filles que tu rencontrais sur ces chats à l'époque et mais vous
Oui,
concrétisiez?
ouais. Ouais, j'avais la chance de vivre dans une grande ville, donc c'était assez facile de rencontrer les gens. Voilà, on allait sur des groupes qui étaient identifiés, groupes de telle ville, et du coup, ouais, c'était simple de... À cette époque-là, j'avais pas d'appréhension à rencontrer des filles que voilà, qui je parlais sur Internet.
Ok, donc ce qui est assez incroyable dans ton parcours, c'est que tu as été harcelé, tu as vécu des moments qui ont dû être très très difficiles, mais par contre, tu n'as aucune rancœur et tu en as fait ton métier d'aider les jeunes qui sont en difficulté. C'est extraordinaire, je trouve, hein. Bravo.
Ouais. Alors des fois, je me dis, je pense que je viens réparer quelque chose aussi, hein,
Ouais,
dans un métier
sûrement.
de travailleur social. De toute façon, on y vient, ce qu'on disait tout à l'heure, pour des raisons qui sont pas toujours désintéressées. On vient sûrement se réparer, mais en tout cas, l'éducation, ça c'est l'éducation que m'a donné ma mère, vraiment à jamais transformer en haine et à réussir à toujours transformer en moteur pour avancer. Ouais, mais ça a été un gros gros travail de sa part. Ouais, mais ça c'est l'avantage peut-être d'avoir une merci.
Ouais, en tout cas, c'est des chouettes valeurs et bravo parce que c'est vrai que tu aurais pu garder comme beaucoup tu vois, l'amertume de ces années-là ou en tout cas mettre une espèce de distanciation quasiment définitive et pourtant tu y retournes et tu vas aider des jeunes qui sont eux-mêmes dans des situations difficiles donc c'est bravo.
Merci.
Donc tu arrives doucement à ta
Ouais.
majorité, tu continues à enchaîner donc des jeunes enfin des jeunes des relations avec des jeunes filles. À aucun moment il y a un événement qui va te faire prendre conscience à ce moment-là encore?
Non, 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 ça c'est arrivé beaucoup plus tard. Ça c'est arrivé, ouais, quand j'avais
Ok.
27, 28 ans, mais toute cette période-là, j'enchaînais soit des... Quoique, ouais, un peu plus tard, un peu plus tôt que ça. J'ai fait une rencontre à 22, 23 ans, mais tu vois, avant ça, non, j'étais toujours dans des relations qui tenaient pas. Après, aux alentours de la vingtaine, je suis tombé extrêmement amoureux d'une fille, d'une hétéro. Là, peut-être que j'ai commencé à me rendre compte de quelque chose, parce que c'est une période où je ne voulais aller que vers des filles hétéros, et j'arrivais à sortir avec des filles hétéros, donc je pensais à quelque chose quand même qui se jouait à ce moment-là déjà, que je conscientisais pas encore, mais il y a quelque chose qui commençait à se mettre au travail autour de la vingtaine, ouais, je pense.
Autour de la vingtaine, est-ce que quand t'es toi avec toi-même, ta sexualité, si sexualité, on va dire personnelle, il y a tes supports masturbatoires, c'est aussi des deux femmes ensemble ou tu.
Non, j'ai...
Je te pose la question parce que justement j'ai lu avant voilà qu'on se
Ouais.
parle. Ça, c'est un truc qui est vraiment, entre guillemets, qui donne beaucoup la puce à l'oreille, justement, aux jeunes trans qui sont pas encore identifiés, enfin, en tout cas, eux avec
Ouais.
eux-mêmes, c'est qu'ils se rendent compte que leurs supports masturbatoires ne sont pas du tout leur sexualité.
Oui, non, c'est vrai qu'effectivement, j'ai commencé à consommer du porno assez jeune, hein, même avant de commencer ma sexualité, hein, je crois qu'à 11-12 ans, j'avais déjà commencé à regarder du porno.
Ouais.
Mais effectivement, ça a toujours été...
Par hasard?
Oui, bah tu sais, la cassette du père que tu trouves planquée dans un coin et que tu regardes avec des copains,
La
ouais. La
fameuse.
fameuse cassette, ouais. Et après, bon, ben voilà, Internet un peu plus tard, mais effectivement, j'ai toujours regardé, enfin, bon, par période, mais quand je regarde du porno, effectivement, c'est du porno plutôt hétéro, ouais. Enfin, plutôt non, du porno hétéro.
D'accord. C'est
Ouais,
ça.
ouais, ouais.
Et avec effectivement une représentation masculine qui te dans laquelle tu te projetterais plus avec une partenaire hétéro
Ouais,
femme.
ouais, ouais. Et moins maintenant, mais à l'époque, ouais. Ouais. je regarde, ouais, oui, ouais, je me regardais à travers, enfin, je regardais à travers les yeux de l'acteur, en voulant entrer à sa place, ouais, ouais, ouais.
Ça tombe bien parce que le porno, enfin, l'époque, bon, maintenant ça va, c'est un peu différent et plus éthique et plus, il y a plus de diversité, mais à l'époque où tu le regardais, c'était exactement ça, c'était à
ouais,
travers les yeux d'un acteur hétéro, donc c'est parfait.
Ouais, ouais, ouais.
Ok, donc tu arrives doucement dans la vingtaine, donc tu as cette histoire avec cette jeune femme qui elle est ouais. hétéro, mais du coup vous consommez votre histoire.
Ouais, et je pense que aussi début de prise de conscience, c'est que j'ai eu une histoire très très forte avec cette personne, voilà, qui avait une dizaine d'années de plus que moi, et qui a fini par me quitter pour un homme. Et là, ça a été une sacrée claque, mais je... Alors, bien sûr, d'être trompé et trahi, c'est extrêmement douloureux, mais je crois qu'il y a vraiment la blessure d'être quitté pour quelque chose que moi, je pouvais pas donner et que j'avais pas, quoi. Enfin, y a une blessure qui est restée très longtemps à ce niveau-là, de pas être l'homme qui lui fallait, en fait.
Elle avait été avec des hommes avant,
ouais.
Elle a eu... Il y a eu votre histoire... Et après, elle te quitte pour, enfin, elle te trompe et te quitte pour un homme.
Ouais, ouais.
D'accord. Et ça crée chez toi cette blessure. Tu dis que c'est le début d'une prise de conscience que tu arrives à nommer, ou c'est plus.
Pas encore. C'est.
Ça va prendre
plus de temps. Ouais, ouais. Ça reste une blessure qui me poursuit pendant des années. Si j'avais 20 ans quand j'étais avec elle, je suis pas retombé vraiment amoureux avant là l'année dernière, tu vois. Donc c'est un truc qui a mis du temps à guérir.
Ah oui.
Mais voilà, parce que je pense une blessure narcissique très profonde et qui a pu s'apaiser quand j'ai fait ma transition, en fait.
Et tu disais qu'elle avait une dizaine d'années de plus que toi, donc une femme de 30 ans qui est donc à ce moment-là dans cette relation, elle essaie pas de justement de rendre cette sexualité moins sens unique, et de, parce que on peut entre guillemets le comprendre chez des très jeunes femmes qui effectivement se laissent un peu guider, parce que t'as toujours ce truc ce bon patriarcat qui a fait son taf pour que, tu vois, la soumission de la sexualité masculine et féminine se mette en place, et si tu effectivement toi à ce moment-là prends un peu cette dimension masculine, ou en tout cas prend le rôle du dominant, même si bon voilà, on sait très bien que ça c'est que du bullshit en termes de nom, mais cette femme de 30 ans, elle essaie pas un peu justement de varier cette sexualité?
Si elle insiste, mais elle a la finesse de voir que c'est trop douloureux en fait, et donc elle abandonne rapidement. Mais si c'est un sujet qui est récurrent dans la relation et qui revient souvent, mais voilà, à un moment elle pouvait que s'incliner face, mais aussi c'est peut-être ce qui a fait que ça a terminé, j'en sais rien, mais oui, c'est quelque chose qui revenait souvent et qui était assez problématique, et qui aussi par moment pouvait l'arranger, parce que finalement elle savait pas trop bien faire non plus avec ça. Donc mais si c'est sûr que mais dans toutes les relations que j'ai eues, hein, même avant, hein, y a toujours un moment où ça posait problème et c'était sujet de tension, ça.
Et socialement, tu as plutôt des copains, tu as plutôt des copines, t'es plutôt... Comment tu t'arrives à te positionner ?
Alors moi, j'ai toujours eu que des copines. Ça a toujours été, ça allait encore à l'heure actuelle. Je me sens plus à l'aise avec les femmes. Je me reconnais pas, en fait, ou assez peu parmi les hommes cisgenres, pour les nommer. Donc voilà, ça a toujours été depuis que je suis petit, et encore maintenant, je préfère la compagnie des femmes. Ouais.
Ok. Okay. Donc, tu continues ta vingtaine, tu continues ces expériences, on va dire, à sentiments partagés, mais à sexualité plutôt unilatérale. Ça dure combien de temps ?
Ça dure jusqu'à ce que je fasse ma transition, mais il y a eu une relation qui est apparue quelques années après celle-ci, où là, ça a été vraiment, je crois, le début de la réflexion. C'est que je finis par quitter Marseille et je pars m'installer en Ardèche, besoin d'aller au Vert. J'avais 23 ans. Et une fois arrivé en Ardèche, je rencontre une femme avec qui je m'entends super bien, voilà, une femme qui est lesbienne, Et donc on sur internet et bon voilà, on engage la discussion, ça se passe super bien, donc on décide de se rencontrer. Et le jour où on se rencontre, elle me dit écoute, il faut que je te fasse une annonce, faut que je te parle de quelque chose. Donc bah voilà, je lui demande ce qui se passe et donc là elle m'annonce qu'elle est trans. Et okay. Donc bah moi sur le coup surpris parce que forcément c'est pas le genre d'annonce qu'on nous fait voilà tous les quatre matins et mais pas rejetant du tout et je lui dis bah ok c'est cool enfin pas de souci quoi mais ça m'a quand même vachement mis au travail quoi du coup dans la déconstruction déjà de qu'est-ce que c'est bah que le genre qu'est-ce que c'est que la transidentité parce que c'était la première fois que je rencontrais une personne trans et du coup ça amène tout un tas de questionnements et là ça a été vraiment le début pour moi de la déconstruction et de mon chemin vers bah vers la prise de conscience quoi. Donc là ouais, j'avais 23 ans.
Tu l'as dit mais ton rapport jusqu'à ce moment-là sur la transidentité, c'était inexistant. Enfin,
quasiment inexistant de ce qu'on pouvait en voir à la télé avec des trucs assez ouais. Tu vois des trucs des reportages sur voilà sur les pauvres travailleuses du sexe du Bois de Boulogne quoi, c'était la seule image qu'on avait quand même à la télé donc c'était les seules connaissances que j'avais là-dessus donc qui étaient voilà qui étaient assez limitées.
Ouais, c'est vrai que quand, enfin, c'était il y a un peu moins de 10 ans. Ouais. Mais ce que tu dis est très juste. Hein, c'est vrai que c'est vraiment très récent la prise de conscience de la transidentité ou en tout. Et effectivement, ça a dû être un choc pour toi.
Ouais, 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 ouais c'est un bon choc. Hein, mais c'est vrai que ça met au travail, quoi. Ça met au travail.
Vous vous rencontrez ?
Ouais, ouais, ouais. On se rencontre.
Et vous liez une relation ?
Ouais, on est resté pas loin de 2 ans, je crois, ensemble. Mm-hmm. Ouais, 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 ouais.
Donc ça, c'est une vraie belle relation.
Ouais, ouais. Ouais, ouais, qui s'est bien passé, qui s'est, j'ai envie de dire, bien terminé aussi. Enfin, voilà, il y a eu un moment où bah, on s'est rendu compte qu'on était plus amis qu'autre chose et qu'on s'était apporté pas mal de trucs pendant notre relation et que ça nous avait fait du bien tous les deux sur plein de choses. Et voilà, chacun a repris sa route. Mais c'était une relation plutôt apaisée et qui s'est terminée de la même manière. Mais c'est vrai que c'est la première personne, une des premières personnes que j'ai contactées quand j'ai fait mon coming out. Voilà, en la remerciant.
Et là, dans ta sexualité, c'est pareil, tu te rends compte que... avec elle, c'est donc ça peut être différent parce que par la force des choses, ça l'est quand vous êtes dans vos relations intimes et ça t'aide un peu toi avec toi-même.
Non, à ce moment-là, c'est toujours dans un truc. Non, ça a pas bougé là-dessus non plus. vraiment près du.
Je veux que
oui,
ça bouge.
Oui, mais ça va
toi,
bouger. T'inquiète pas. non, à ce moment-là, c'est toujours verrouillé, c'est toujours inaccessible, il se passe toujours rien. Voilà, ça se passe entre moi et moi-même là-dessus. J'ai jamais eu de souci masturber, tout ça, ça a jamais été un blocage pour moi. Mais avec quelqu'un d'autre, c'était pas possible.
Mais tu le dis avec beaucoup de pudeur, mais ça se comprend. Mm-hmm. Enfin, quand on n'est pas, voilà, encore une fois, en phase avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on est profondément, mm-hmm. C'est pas juste,
ouais.
Quoi.
Mmh.
Ok, donc vous finissez cette relation plutôt ouais. Bien et ça c'est cool. Donc là, si je calcule pas trop mal, t'as quoi 25
ans ? Ouais, c'est ça. Et là, j'arrive là où je vis actuellement. Et j'ai une première relation quand j'arrive ici, mais voilà, qui a pas beaucoup de sens et pas beaucoup d'intérêt. Par contre, là, voilà, je vais faire à ce moment-là, un an après mon arrivée, 26 ans, je crois. Là, je vais faire la rencontre. Alors, c'est pas ma compagne actuelle, mais qui a été déterminante pour moi. Donc je m'ennuie un peu là où je vis actuellement. Je noue difficilement des amitiés. Voilà, je rencontrais pas beaucoup de gens, mis à part les gens avec qui j'étais en formation à ce moment-là. Et donc, je m'inscris. Je crois que c'était sur Tinder, en me disant.
Il n'y a plus Caramel.
Non, Caramel n'existe plus, malheureusement. Et puis, assez rapidement, je match avec une nana qui est pas très loin de chez moi. On a des looks assez similaires, un peu qui dénotent un peu sur Tinder. Elle avait un gros look de gothique. Voilà, j'ai un petit look de métalleux. Donc, on a tout de suite matché parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur Tinder. Et puis voilà, on se met à parler quelques jours et puis on décide de se rencontrer. C'est une personne qui est très impliquée dans le milieu queer du coin, qui est aussi très impliquée dans le milieu BDSM du coin. Voilà.
Oh. Donc du coup, vous commencez à
voilà,
dater.
On date plusieurs fois. Bizarrement, je mets du temps. Il faut pas mal de dates avant qu'il se passe quelque chose qui est d'habitude pas dans mes habitudes. D'habitude, c'est vrai que pour mes dates, c'est emballé. Mais voilà, on apprend à se connaître, ça passe vachement bien. Elle a beaucoup de choses à m'apprendre déjà sur le coin, sur la culture BDSM. Que je connaissais pas du tout à l'époque. J'étais pas réfractaire, mais voilà. Puis elle, donc on se met ensemble et puis rapidement elle me trimballe dans le milieu queer. Et bah du coup c'est là où je commence à croiser les premières, d'autres personnes trans, dont des personnes trans masculines, parce que j'en avais jamais rencontré. Et là ça a commencé à vraiment se mettre au travail pour moi, à me dire lui quand je l'entends parler, ça me parle, ça fait écho. Voilà, elle en fait ce qu'elle m'a dit plus tard, c'est que quand elle m'a rencontré, elle a tout de suite compris ce qui se passait pour moi. Sans que j'aie à le nommer, elle a compris. Voilà, mais parce que elle baigne là-dedans, qu'elle connaît des gens, qui ont ce parcours-là. Donc,
oui, elle a une intuition qui est plus
développée
sur ce sujet.
Donc subtilement, elle m'a amené à faire des rencontres, elle m'a amené dans un milieu où je pouvais me sentir bien et explorer ça. Elle m'a.
Toi, c'est un milieu, le milieu queer que tu n'avais jamais.
Non. Jamais. Non, j'avais toujours voulu fuir le milieu LGBT. Je trouvais ça pas très sain, cet entre-soi. Et voilà, que j'ai compris plus tard, mais quand j'étais plus jeune, ça m'intéressait pas. J'avais jamais eu d'amis homo. Enfin, tu vois, j'étais pas dans ce truc-là de vouloir traîner avec des gens comme moi. Voilà. Donc là, effectivement, je découvre le milieu queer, et là, c'est les paillettes et c'est l'explosion dans ma tête. En parallèle, je découvre le milieu BDSM.
Une autre explosion dans ta tête.
J'étais pas vraiment prêt à ce moment-là. Je crois qu'il se passait trop de choses en même temps dans ma tête. Mais en tout cas, c'était joué sur deux terrains qui allaient ensemble, parce que finalement, ça a pu le milieu BDSM m'apporter autre chose au niveau de la relation au corps de l'autre, à mon corps, peut-être plus me sentir aussi dans mon corps avec d'autres jeux. Voilà, on aimait bien pratiquer, tu sais, le jeu de la cire, voilà, faire couler de la cire, comment on appelle ça déjà, les cordes là. Ah, j'ai oublié le nom. Oui, voilà. Explorer le shibari, plutôt au shibari, qui est aussi des choses qui m'ont fait du bien corporellement. Je crois qu'elle a aussi aidé à me réconcilier quand même un peu avec mon corps et à me faire re-rentrer dedans avec le BDSM. Donc voilà, on a participé à des munchs, on a participé à des soirées BDSM.
C'est quoi les munchs?
Alors les munchs, pour ceux qui font du BDSM, c'est des sortes de groupes de parole. Entre pratiquants du BDSM, c'est des réunions où en fait il y a un thème qui est décidé. Alors je sais pas, ça peut être le consentement dans le BDSM, la domination féminine, et donc voilà, t'as un groupe de personnes qui se rassemblent et qui débat de ce thème-là pendant une heure ou deux, avec un maître un peu de cérémonie qui va animer, qui va distribuer la parole.
Mais il y a pas de pratique.
À l'issue, après, une fois que c'est terminé, là les gens on fait ça dans un endroit où les gens peuvent après s'exprimer, jouer et pratiquer. Mais c'est pas obligé. Moi, j'ai déjà juste été au munch parce que je trouve que intellectuellement c'était intéressant. Et après rentrer chez moi. Moi, de toute façon, j'ai plutôt toujours été assez spectateur. J'aimais bien regarder ce qui se faisait, ce qui se pratiquait. Mon ex, elle pouvait pratiquer, dans les soirées. Je la regardais faire. Mais c'était un truc qui m'intéressait, mais c'était pas le bon moment pour moi. Mais ça m'a quand même pas mal aidé, je pense.
Vous aviez un rapport, une relation libre?
Sur la fin de notre relation, parce qu'on est resté 3 ans ensemble. Sur la fin de notre relation, ouais, parce que j'étais plus capable du tout d'avoir. Quand ma transition a démarré, j'étais plus du tout capable de donner quoi que ce soit. Recevoir encore moins. Avec elle, j'avais commencé à accepter de recevoir. Elle avait quand même réussi à déverrouiller un petit peu ça chez moi. J'étais très 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 auto-centré une fois que c'est parti, et du coup, voyant qu'elle souffrait quand même de ça, on a ouvert la relation.
Ouais. Ok. D'accord. Donc t'es confronté à ces univers-là qui font leur chemin en toi et te bouleversent beaucoup. J'imagine qu'effectivement la transidentité, c'est ce qui te happe le plus. Quel est le moment où tu vas te dire c'est ok.
Eh ben, je sais même plus. Alors, ça a été une espèce de processus. Au début, je me suis dit, je me reconnaissais, mais ça m'effrayait tellement que je me disais, bon, en fait, je suis peut-être non-binaire. Donc, j'ai commencé par ça, doucement. En me disant, ouais, c'est vrai que je me reconnais pas du tout en féminité. Bon, la masculinité, ouais, un peu plus. Mais peut-être que je suis à la frontière entre les deux. Donc, le premier processus, ça a été ça. Et puis, je sais même plus comment. Il y a un jour, elle m'a dit, mais... Et ça a commencé par le prénom, en fait. Elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on réfléchisse à un nouveau prénom? Enfin, que toi, tu réfléchisses à un nouveau prénom. Et dans notre sphère à nous, on l'utilise, on voit comment tu te sens. Enfin, on a vraiment fait un truc comme ça par étapes. Et c'est vrai, quand elle m'a posé la question du prénom, mais c'est sorti en une demi-seconde. Hein. Je savais quel prénom j'avais, en fait, depuis toujours. Il a toujours été là, j'ai jamais hésité. Tout de suite, Max est apparu et c'était sûr et ça a jamais changé. Donc voilà, on a commencé comme ça un peu des trucs dans l'intimité, mais ça a pas duré longtemps. Au bout de quelques semaines, j'ai craqué et j'ai dit, bah, en fait, c'est ça.
C'est plus qu'un prénom et ouais. C'est plus qu'une non-binarité.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment, en fait, quand elle me parlait au masculin, j'étais trop heureux. J'avais le cœur qui battait à 10 000. J'avais des papillons dans le ventre. Enfin, voilà, c'est d'expérimenter comme ça dans l'intimité des petites choses qui m'ont fait dire que là, j'avais trouvé. En fait, c'est bon, c'était parti.
Ok. Et la transition commence à ce moment-là?
Ouais, ça commence assez rapidement, hein, parce qu'effectivement, j'ai 28 ans à ce moment-là. Je me dis que ben, j'ai envie de vivre, ça y est, il est temps. Mm-hmm. Donc, ça s'est calé. En novembre, j'ai commencé à faire un peu mon coming out autour de moi, à mes amis, qui a été très très bien reçu. Je suis hyper privilégié là-dessus. J'ai traîné pour en parler à ma famille parce que même si je savais si je savais que j'allais pas être rejeté, j'avais aucun doute là-dessus, j'avais du mal à me dire je vais encore leur faire passer un truc un peu difficile et il va y avoir un processus, je connais ma mère qui va pas être évident pour elle, mais donc je traîne, je vais plusieurs fois chez ma mère en me disant allez ce week-end je lui en parle, je rentre chez moi, je déconfie parce que j'ai pas réussi à le faire et là à nouveau je vais très 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 mal et il y a un moment où je me dis je vais trop mal, il faut que ça sorte. Ma mère en plus voyait que j'allais extrêmement mal mais j'arrivais pas à lui dire pourquoi. Donc on tourne comme ça jusqu'à Pâques, tu vois, de novembre à Pâques on tourne autour de ça. Ouais. Et puis un jour un week-end je vais chez ma mère et puis je craque et puis je lui dis, et là ça a été la sidération dans un premier temps pour elle. Voilà, elle m'a longuement écouté, elle a rien dit et puis elle...
Formation professionnelle.
Ouais, non, mais je crois vraiment que c'était de la sidération. Et puis rapidement, elle m'a dit, ben oui, en fait, c'est évident. Et bon, il y a eu un processus qui a été long pour elle et donc tellement un peu protégée. Mais je sais que il y a beaucoup de personnes trans qui supportent pas qu'on dise ça. Moi, je comprends que ma mère le dise. Il a fallu qu'elle perde une fille pour accepter d'avoir un fils. Et puis après, ça s'enchaîne. Après, je le dis à mes sœurs. Pour moi, il était inconcevable de commencer à prendre des hormones tant que tout le monde, toutes les personnes qui m'étaient proches étaient pas au courant. Donc, voilà, je fais.
Tu parles pas de ton père? Tu es mort de ton
père? Mon père est mort quand j'étais ado, ouais. Mais on n'a jamais été proches. Et voilà, donc je fais le tour de tous mes amis éloignés, enfin qui vivent à des endroits éloignés. Et une fois que j'ai fait tout mon tour, là je dis ben maintenant c'est parti, on commence la transition médicale. Voilà, ce qui on peut le rappeler, pas une obligation pour les personnes trans. Hein. On peut être légitime et être trans sans faire de transition médicale. Moi j'en ai.
Ça c'est hyper important que tu le dises, ouais. Max, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui. Enfin, tu vois, je le vois sur les réseaux, je suis pas mal de comptes que je mettrai dans la barre. Enfin, dans les notes du podcast, parce que du coup, effectivement, en vue de cet entretien, j'avais envie vraiment de savoir un peu plus d'avoir plus d'éléments. Et effectivement, c'est pas une étape obligatoire.
Non, c'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. Enfin, c'est une expression de genre. Donc, on n'a pas à dire ce qu'on a comme partie génitale. On n'a pas à prendre d'hormones. On n'a pas obligé de faire un changement d'état civil. Voilà, il faut entendre le ressenti des personnes. Et l'accepter, et voilà, les personnes qui s'expriment sont légitimes de le faire. Mais en tout cas, voilà, moi c'était mon désir, donc j'entame rapidement un parcours médical, donc prise d'hormones. Donc là, le corps qui change rapidement, et là, c'est l'euphorie complète. Hein. Je vois les poils qui poussent.
Là, quand on entend ta voix 3 ans après, c'est vrai que c'est fascinant.
Ouais. Alors la voix, ça a été tout un truc, hein, parce que ça a fait marrer mes amis pendant longtemps, ma voix, parce que j'ai eu la phase de mue de l'adolescente 14 ans.
Ah, j'imagine.
Donc ça a été une étape qui a bien fait marrer tout le monde et que j'ai autorisé. Voilà, on se dit, il faut qu'on en rigole. Hein, ouais. C'est un truc chouette qui m'arrive. Voilà, les poils qui poussent. Là, j'ai une barbe de jeune garçon, mais je suis très heureux.
Ah ouais, on s'est vu, t'as de la barbe aussi.
Ouais, c'est pas encore ça. Mais et là, c'est la réconciliation avec mon corps et avec ma sexualité, en fait, qui s'est faite. Du coup, à ce moment-là, les deux se sont réemboîtés.
Donc là, il y a une libération avec toi-même.
Ouais. Là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe où, enfin, je reconnais mon corps, quoi. Enfin, je le vois comme j'aurais aimé toujours le voir. J'ai la puberté que j'aurais aimé avoir et malgré mes organes génitaux féminins, enfin, en tout cas, de personnes féminines, ça me pose pas de problème. Finalement, je me rends compte dans la transition. Alors autant j'ai eu besoin de me faire enlever la poitrine, ça c'était quelque chose qu'il a fallu que je fasse vite parce que c'était complètement insupportable et du coup je m'étouffais avec ce qu'on appelle des binders. Donc ce sont des espèces de débardeurs compressifs qui compressent complètement la cage thoracique pour essayer de masquer.
Ça va être tellement désagréable.
Voilà, surtout que moi j'avais vraiment pas eu de chance, donc j'avais une poitrine vraiment très imposante, donc j'en superposais deux. Alors, pour aplatir le tout.
Ça dépend dans quel prisme tu es.
Ouais. En tout cas, dans mon cas, c'était pas ce que je voulais. Mais bon, donc voilà, il y a eu cette urgence là pour moi de pouvoir faire cette opération. Après, le changement de prénom et puis toutes les.
J'ai l'impression que ça allait très vite dans ton cas.
Ouais, j'ai eu de la chance. En 3 ans, j'ai tout fini. Là, tu vois, la dernière étape pour moi, ça a été mon numéro de sécu que j'ai eu cet été. En 3 ans, je suis passé de rien à hormones, opération, état civil changé. Voilà, maintenant, à l'état civil, c'est monsieur. Et partout où je vais, enfin, ça fait un moment que partout où je vais, c'est monsieur. Mais j'ai pu la trouver au ventre quand je dois présenter une pièce d'identité ou aller chez le médecin. Parce que ça, c'est un truc qui est quand même. Il y a l'euphorie du traitement hormonal qui fait qu'on change, mais il y a du coup l'angoisse que ça amène de plus avoir les papiers qui correspondent. Voilà, on se rend pas compte, mais pour plein de choses, tu vas retirer un colis, tu vas à la banque, tu vas faire des examens médicaux, enfin voilà, partout, tout dans beaucoup d'aspects de la vie quotidienne, il y a quand même encore un moment où c'est hyper compliqué, et c'est hyper angoissant tout le temps, de se dire on va repérer, qu'est-ce qui va m'arriver, ouais ça, voilà. Puis après il y a un autre truc qui est assez moi j'ai mis du temps à m'en rendre compte et à faire avec, c'est de voir à quel point la place qu'on occupe dans l'espace public elle change. Moi j'ai mis un moment à me débarrasser de la trouille que j'avais quand je rentrais chez moi tout seul le soir. Maintenant j'ai plus peur, enfin tu vois, c'est des trucs qui devraient pas exister, mais voilà, c'est des choses qui se passent et dont on est con. Voilà,
t'es devenu un mec, quoi, ça y est.
C'est ça, et j'ai plus de problème, quoi, dans l'espace public. Voilà, je sais qu'il va rien m'arriver, et c'est des peurs qu'on met du temps quand même à abandonner, que j'avais pendant un moment parce que je me disais, oh là là, je passe plus pour une nana, mais on va sûrement se rendre compte que je suis un mec trans et qu'est-ce qui va m'arriver, ça va être pire. Bon, là, ça fait un moment que je me suis débarrassé de ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette euphorie qui va avec, quoi, de pouvoir tenir la main dans la rue à une fille, et que les gens s'en foutent et qu'il n'y a pas de problème, c'est très étrange, quoi, au début.
C'est ça, c'est ton acceptation sociale qui, effectivement, il y a tout ce que tu décris sur la transition pas à pas, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose pas tellement parce que d'un point de vue un peu, on va dire, peu premier degré, on s'imagine juste une transition de genre et effectivement une voix grave, des poils qui poussent et quelques ou pas, en tout cas, dans le parcours médical qui peut aider un peu à gommer en tout cas l'apparence. Mmh. Mais on ne pense pas effectivement à ce que tu viens de raconter, la place que tu prends dans l'espace public. Mmh. Et à l'inverse, j'imagine que les femmes trans, elles, doivent aussi réapprendre les codes d'une société qui les définit à un moment donné comme femmes.
Ouais, elles reçoivent la misogynie.
Dans un délire, quelque chose. Hein.
Ouais, voilà, elle c'est sens inverse. Elle régresse hein, dans l'échelle sociale. Moi j'ai monté, j'ai gagné en privilège. Elle, les pauvres, elles ramassent hein, bien plus que les hommes trans. Hein. les toutes les meurtres, si on suit un peu aux États-Unis, c'est que des femmes trans qui sont assassinées tout le temps. Et vraiment, c'est une hécatombe aux États-Unis.
Terrible.
Ouais, ouais, ouais. Puis en France, quand même, la plupart des personnes qui se font trans, qui se font agresser, c'est des femmes trans. Hein. Vraiment, elles descendent même pas d'un étage, elles descendent de 10 étages parce qu'elles se ramassent et la transphobie et la misogynie. C'est effroyable ce qui se passe.
Et justement, t'es resté, toi, impliqué dans la communauté queer ?
Non.
Tu continues d'avoir ces discussions-là après, ouais. Après ta transition ?
Non, alors pas dans la ville où je vis. En plus, le seul espace safe qu'on avait à fermer. Et puis, non, il y a eu un moment où j'ai eu aussi besoin d'en sortir pour vivre autre chose parce que je vivais plus que là-dedans et je parlais plus que de ça. Et c'était déjà qu'on y pense tout le temps quand on est trans à notre transition, à notre parcours. Il y a eu un moment où j'ai eu besoin de sortir voir autre chose. Puis voilà, j'ai un travail qui me prend pas mal d'énergie. Donc non, un peu sur les réseaux. Tu vois, je suis sur plusieurs groupes et du coup, je conseille et je discute facilement, mais plus dans ma vie.
Partage ton expérience.
Ouais, voilà, mais pas dans ma vie au quotidien. Non, ça j'en suis sorti.
Et donc après cette on va dire ce parcours, enfin même si effectivement je pense que c'est aussi ça marque effectivement un avant un après.
Ouais.
Dans ta sexualité, tu dis que ça t'a libéré.
Ouais.
Du coup, comment ça s'est passé la première fois que tu as eu une relation avec une femme?
Ouais.
Dans la synchronicité de ton corps, ton esprit et ta sexualité?
Eh ben, ça s'est passé il y a un an maintenant, la première fois.
Donc quand on avait commencé à échanger.
Oui, c'est au même moment, au même jour, j'ai rencontré la personne qui partage ma vie. C'était quelques jours avant mon opération de la poitrine, où je me suis fait enlever la poitrine. J'étais mort d'angoisse à l'idée de cette opération, parce que même si on l'attend, on est quand même inquiet. Et donc une nuit d'insomnie. J'ai fait deux choses cette nuit d'insomnie. La première, ça a été de t'écrire. Et la deuxième, ça a été de...
Je suis flattée.
Voilà. Et la deuxième, ça a été de m'inscrire sur OkCupid. En me disant, okay. Bon, il me reste quelques jours avant que je parte me faire opérer, parce que je me suis fait opérer à Toulouse. Je m'ennuie, j'ai envie de parler à des gens, je suis pas bien, je suis angoissé, je vais m'inscrire sur OkCupid. Parce que je savais que c'était la seule appli vraiment safe pour les personnes trans. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas moi c'est la seule que je connaissais, donc je me suis dit je vais aller là-dessus, comme ça je peux marquer que je suis un mec trans et on va limiter en tout cas les personnes qui vont fétichiser ou poser des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre. Donc je m'inscris tout là-dessus et le lendemain je match avec la personne qui partage ma vie actuellement, et ça a été elle tout de suite. En fait, ça a été un truc assez incroyable où on s'est parlé et je crois qu'au bout d'une heure on avait compris que voilà, c'était évident et on a passé on a mis 2 ou 3 semaines je crois avant de se rencontrer parce qu'il y a eu l'opération, après j'étais en convalescence chez ma mère, tout ça. Donc on a passé 3 semaines à se parler, je pense, je sais pas, 18 heures par jour non-stop. Pendant 3 semaines, elle travaillait, hein, donc elle dormait quasiment plus, et puis elle m'écrivait au travail, et moi je suis sorti du bloc opératoire, je suis remonté dans ma chambre, le premier truc que j'ai fait c'est de prendre mon portable pour lui écrire, tout endormi de mon anesthésie, mais voilà, je me suis endormi au bloc, on s'était jamais rencontré physiquement, hein, mais je me suis endormi au bloc, je pensais à elle, je suis remonté, c'était elle que j'ai voulu contacter, enfin voilà, 3 semaines comme ça, à se parler tout le temps, la transidentité vient dans la discussion, mais pas tant que ça en fait, voilà.
J'allais te demander si elle savait que tu étais un homme trans.
Ouais, elle le savait parce que je l'avais marqué dans mon profil sur OKC, donc elle le savait.
T'avais pas fait comme ta précédente.
Non, exact.
Enfin, jeune femme que t'avais rencontrée en Ardèche, qui elle ne l'avait pas dit et avait pris le temps après de te le dire.
Ouais, non, je préférais que ce soit dit tout de suite. Okay. Donc voilà, ça vient un peu dans le sujet. Elle avait jamais rencontré, daté ou été avec une personne trans, mais pour elle c'était pas une question en fait, c'était pas un sujet. Donc voilà, on passe dessus de temps en temps, mais pas plus que ça. Donc on a ces 3 semaines où on se parle tout le temps. Et puis un jour, on attendait mon retour dans la ville pour se rencontrer. Et puis un jour, en fait, elle tient plus. Elle me dit, écoute, mercredi, c'est mon jour de repos. Je fais la route. Je veux bien te voir. Je viens te rencontrer. Donc, c'était quelques jours après mon opération. J'étais franchement pas frais. Mais je lui dis, OK, vas-y, go, on y va. Et puis, elle est venue me chercher chez ma mère. Et puis là, ça a été coup de foudre plus. Et puis, ça a été assez vite. Alors, la particularité, c'était quand même qu'elle était en couple à ce moment-là, dans une relation ouverte.
Ok. Folie amoureuse?
Ben non, justement. À la base, non, non. Elle était en couple avec une femme, mais non, c'était une relation libre, mais pas du tout polyamoureuse. Normalement, elle datait pas des gens célibataires, mais voilà, elle dit qu'elle a vu passer mon profil et qu'elle sait pas pourquoi, mais moi, elle a matché alors qu'elle savait qu'il aurait pas fallu. Donc,
elle est en couple avec une femme, donc ouais. Pardon hein, pour les cases, mais elle est lesbienne?
Non, elle est plutôt
pansexuelle.
Pansexuelle, ouais, plutôt.
Pansexuelle.
Ouais. Et
donc pansexuelle, comment tu me le décrirais?
Bah en fait pansexuelle c'est y a pas d'attrait particulier pour un genre ou pour un sexe, c'est une personne quoi, c'est pas binaire homme-femme, c'est elle rencontre des personnes quoi, voilà, ça peut être des personnes cisgenres, des personnes trans, des personnes non binaires. Voilà, pour elle le genre n'a pas ni les organes génitaux ont pas de préférence quoi.
OK.
Donc voilà. Et donc voilà, elle est en couple, elle est paxée, elle vit avec la personne. Et en fait, en 3 semaines, elle a tout quitté.
Okay.
Pour qu'on soit ensemble.
Vous viviez votre histoire.
Voilà, ouais, ouais. Ça n'a pas traîné, voilà, ça n'a pas été les promesses de je vais la quitter, t'inquiète pas. C'est, non, non, c'était une telle évidence pour nous deux qu'elle s'est lancée. Okay. Puis elle, contrairement à moi, elle a vraiment un caractère de fonceuse et voilà. Quand elle, quand les choses sont évidentes pour elle, elle pose pas de questions. Moi qui suis plus prudent et c'est plus compliqué pour moi, mais j'avais moins de choses à perdre qu'elle. Mais voilà, donc ça se fait comme ça très vite. Et puis du coup, sexualité, première fois où déjà hormis la sexualité où moi je suis socialement reconnu comme un homme, donc c'est un peu étrange.
Ouais. Entre guillemets, ça y est. Je suis bien un homme.
Ça y est, donc dans la rue, on est un couple hétérosexuel. Les gens ne nous dévisagent pas. C'est très étrange pouvoir donner la main, embrasser une fille dans la rue.
Madame.
Voilà, c'est ça. Mais même pour elle, hein, qui quand même était en couple qu'avec des femmes depuis un moment, c'était pour elle aussi un peu étrange de sentir que il y avait un périmètre autour d'elle quand on se balade dans la rue et que un homme qui la regarde dans la rue, il me regarde et puis après il tourne la tête, il va pas essayer de venir lui parler. Enfin voilà, on découvre finalement ensemble ce que c'est qu'un couple hétéro. C'est un peu surprenant pour tous les deux. Et puis du coup, première sexualité et en fait, je me rends compte que cette sexualité en tant qu'homme, oui et non, c'est que on a vraiment un fonctionnement et un rapport à la sexualité qui a pas de genre en fait. On n'est pas du tout dans des schémas homme-femme, on n'est pas du tout dans des schémas dominant-dominé et du coup, c'est ce qui fonctionne. Et là, c'est la première fois où vraiment j'ai un lâcher prise sur ma sexualité, sur l'accès à mes organes génitaux et c'est cool en fait. Enfin, là, je me pose plus de questions, j'ai plus d'angoisse, je me dis pas que c'est un sexe féminin et que du coup, c'est pas en adéquation avec moi. C'est que j'ai fait aussi mon travail à me dire, en fait, je suis un homme avec un vagin et c'est voilà, c'est mon sexe d'homme, quoi, en fait, d'avoir un vagin. Et
finalement, t'as le gros lot, hein, Max. Hein.
En vrai. Ouais, c'est ce qu'elle
en
me
vrai,
dit.
En vrai, t'es tranquille dans la rue et en même temps, t'as un clitoris qui
ouais.
est la perle de la meilleure place du monde.
Ouais, ouais, c'est ça. En fait, je suis à l'aise. Voilà, c'est mon sexe d'homme, en fait, d'avoir un vagin. Et j'ai pas de problème à pas avoir de pénis. Et ça fonctionne vachement bien tous les deux. C'est un truc vachement léger et fun et on se prend pas la tête, on a envie d'essayer plein de trucs, on les essaye. Il y a des moments où je suis des phases où je vais être plutôt vachement passif et ça pose pas de problème, mais là voilà, m'insécurise pas dans ma masculinité par exemple d'avoir des pénétrations, d'avoir des cunnilingus, enfin vraiment ça j'ai fait la paix avec ça et ça me définit pas en tant qu'homme, j'ai réussi à lâcher là-dessus quoi. Là où finalement je pense qu'avant je cristallisais tout là-dessus, maintenant que socialement je suis reconnu en tant qu'homme et tout ça, j'ai lâché en fait là-dessus.
C'est exactement la question que j'allais te poser. Est-ce que c'est parce que t'as la validation entre guillemets de la société et du regard de l'autre, que ce soit un regard professionnel, environnemental, des gens autour de toi, que ce soit administratif, voilà, le fait que tu sois cet homme-là, c'est ça qui t'a lâché la chape de plomb et ça y est, maintenant tout est ok.
Ouais, c'est ça. Maintenant, je suis au clair avec moi-même. Je suis qui j'ai envie d'être et du coup j'ai plus à me prendre la tête sur ce qui été. Mais voilà, c'est quoi, ça dit bien ce qu'on perçoit d'un homme. C'est un homme, c'est un pénis. Et en fait, à un moment, tu te rends compte que non, hein, c'est pas le pénis qui fait l'homme. Et voilà, ça.
Oh là là, si seulement on pouvait graver ça, je sais pas, sur tous les monuments. J'aime beaucoup cette phrase. Mais est-ce que, alors, du coup, le BDSM, bon, c'est peut-être un petit peu tôt parce que ça fait un an que t'accompagnes et puis peut-être que c'est quelque chose qui t'intéresse pas, mais est-ce que c'est quelque chose qui te retitille ou auquel tu repenses?
Ouais. Là, je m'autorise plus à y repenser. Ça a jamais, elle était effectivement son univers. Après, en parlant un peu de nos pratiques, des fois, je disais oui, enfin ça, tu t'en rends pas compte, mais c'est quand même des pratiques un peu BDSM. Mais comme plein de gens, en fait, hein, quand tu leur dis, ils disent ah bon, bah oui. Les claques, les fessées, comme ça reste un peu des pratiques BDSM.
Ça reste, ouais.
Voilà, donc, en creusant autour de elle ce qu'elle avait pu faire sans mettre de mots là-dessus. C'est un truc sur lequel on va tranquille et on discute. Mais ouais, c'est un truc qui nous branche bien. Après, dans notre intimité, tu vois, c'est pas un truc qu'on irait faire, je pense, dans des lieux où tout ça, mais tous les deux, on a plutôt envie d'essayer des trucs, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ça revient plus maintenant que j'y suis disposé. Ouais.
Ok, bah oui, j'imagine que tu as plus d'espace de cerveau en tout cas. Et de...
C'est ça.
Ça y est, c'est ok, la page est tournée, c'est bon. Et tu as présenté ton ami à ta famille ?
Ouais. C'est pareil, ça s'est fait assez vite, hein, parce que tu vois, ça fait un an qu'on est ensemble, on vit déjà ensemble. Depuis quasiment le début. Après, il y avait aussi cette histoire de séparation qui faisait qu'elle fallait bien qu'elle aille quelque part. J'ai rencontré ma famille, j'ai rencontré la sienne, ça se passe bien. Sa famille, alors sa mère est au courant que je suis trans, son frère le sait pas. Mais voilà, il y a pas de souci à ce niveau-là. Sa mère se permet pas de me poser des questions un peu intrusives. Je sais qu'elle lui en pose, mais voilà, elle me les pose pas directement.
Ouais, c'est
cool.
Et justement, on en parlait un petit peu avant d'ouvrir les micros, mais est-ce que parce qu'on a, enfin moi je souhaitais justement que tu sois très libre dans cet entretien et que tu parles de sa sexualité. Alors évidemment, la transidentité, elle fait partie intégrante de qui tu es, mais voilà, je voulais vraiment que tu te sentes très libre dans cette approche-là, et t'en as dit énormément, mais je trouve ça génial, parce que pour les gens justement qui se posent des questions ou des hommes ou des femmes trans, quel que soit leur parcours, ou même des gens non binaires, etc., enfin toutes ces subtilités que tu apportes et cette expérience de vie, elle est très très précieuse, donc merci pour ça. Mais est-ce que tu dirais que, je sais que la question paraît très bête, mais est-ce que tu te définis par ta transidentité?
J'essaye de plus le faire. j'essaye de plus le faire. Le fait de maintenant avoir des papiers qui correspondent, tout ça m'aide aussi, parce qu'il y a un moment où faut tellement que tu t'expliques surtout, que tu vois, même quand je veux chercher du boulot, il y a toujours un moment, il faut l'expliquer. Donc que tu le veuilles ou non, ça revient toujours, et il faut toujours te définir à travers ça. Là j'essaye de m'en détacher. Il y a des moments où j'arrive à l'oublier. Et c'est plutôt cool. Là, je suis dans un boulot, tu vois, où à part ma hiérarchie, personne n'est au courant. J'ai pas envie d'en parler à mes collègues. J'ai pas envie d'être le collègue trans. J'essaye de sortir de ça. Ouais, c'est pas toujours évident, hein, parce que c'est un truc très fort et c'est un cataclysme, hein, qu'on vit pendant plusieurs années. Mais j'aspire, en tout cas, ça fera toujours partie de moi. Tu vois, par exemple, j'ai le corps qui est extrêmement tatoué. Bientôt, je vais me faire tatouer le torse. Je refuse de me faire tatouer les cicatrices de mon opération parce qu'elles font partie de moi et j'ai pas envie de les gommer. Mais j'essaye d'être autre chose, ouais. Et de plus ramener toujours la conversation à ça.
Et du coup, c'est une parfaite transition pour le futur, pour que, voilà, quel est ton souhait pour ta sexualité future? Alors effectivement, on a un peu commencé à effleurer le sujet sur toi. Il y a quelques pratiques BDSM qui t'avaient un peu fait de l'œil il y a quelques temps.
C'est ça.
Que peut-être tu vas injecter dans ta sexualité avec ta compagne. Mais est-ce que il y a, enfin, vous avez déjà réfléchi, parce que d'après ce que tu dis, et puis même qui tu es, vous êtes des gens avec une grande ouverture d'esprit, mm-hmm. avec aussi un grand respect de la liberté, mm-hmm. Ce qui est assez rare et précieux pour être mentionné. Est-ce que voilà, vous avez déjà des projets, parce que j'imagine, vu tout l'amour qu'il y a entre ouais. vous, que le futur est conjugué à deux.
Ouais.
Donc, est-ce que elle et toi, vous avez un peu déjà réfléchi à ça?
Non, pas franchement. On est vraiment dans un truc où on se dit qu'on se met pas la pression en fait. Et donc non, quand voilà, quand on a envie d'en parler, on en parle. Mais c'est vrai qu'on projette rien pour une sexualité à venir, mis à part voilà, continuer à explorer, à expérimenter des choses. Je pense que voilà, dans quelques temps, on essaiera des nouvelles expériences, peut-être ajouter des partenaires. Enfin, tu vois, je pense que rien nous sera impossible et impensable dans l'avenir. Après, c'est pour moi pas possible maintenant. Il faut quand même que je me réassure et que je me sécurise sur ma sexualité qui est naissante finalement.
Oui, et puis même vous deux. Enfin, je dirais ouais, un an, même si c'est très intense. C'est vrai ouais, que ouais. Il y a encore tellement de choses à faire.
C'est ça. Voilà. Donc, continuer à notre rythme tranquille. Ouais, pas vraiment de projet là-dessus.
Et vous parlez, encore une fois, hein, c'est dans ouais. le temps que vous avez plein de choses, mais est-ce que vous avez envie de créer un foyer avec des enfants?
Moi, non. Elle sait pas encore si elle rône, voilà, si vraiment elle a pas envie d'enfant. Moi, ça m'a longtemps questionné. J'ai eu des phases plus jeunes où j'avais envie d'avoir des enfants. Là, je suis sûr de moi, je n'en veux plus. Enfin, j'en veux pas. Voilà, pour des raisons.
Tu vois pas le meilleur côté en plus dans ton métier, donc.
Non, c'est ça. Âges. Non. Puis, enfin, moi, je suis très inquiet sur ce qui se passe écologiquement parlant. Enfin, c'est plus un choix de raison. Parce que en fait, j'aime les enfants. Effectivement, je travaille avec eux. J'ai des nièces dont je suis fou et j'aime les enfants, mais je trouve pas ça raisonnable en fait d'en faire. Donc voilà. Non, moi, je suis sûr de moi. Je vais bientôt me faire retirer tout ce qui est ovaire et tout ça. Donc voilà, ça sera terminé pour moi. Après voilà, ma compagne, elle est pas encore tout à fait sûre d'avoir renoncé à ce désir-là, mais c'est quelque chose en tout cas dont on parle. C'est pas voilà, on sait que peut-être un jour ça va se poser parce qu'elle a 30 ans, donc c'est des questions qui commencent à arriver. Voilà, on s'y comprendra des chiens et des chats et ça sera peut-être chouette aussi.
Donc, ce sera quoi le mot de la fin, Max? Le fameux mot de la fin.
Alors, le fameux mot de la fin, tu vois, j'avais un peu pensé à certaines choses, j'avais pas pensé au mot de la fin. écoutez-vous, je crois que c'est, voilà, il faut vraiment apprendre à s'écouter, à sortir de la norme et de la normativité. Soyez qui vous avez envie d'être, en fait. Voilà. Et soyez heureux, mais en étant vous-même. Ça, c'est important et j'ai mis du temps à le comprendre.
Ok. Et je te remercie infiniment.
Eh bien, merci à toi.
Merci infiniment à Max pour cet échange et ce témoignage que je trouve incroyable de générosité, de bonté, de tolérance, d'ouverture d'esprit. J'espère que pour certaines et certains, ça vous a appris des choses, que pour d'autres, cela vous a conforté, réconforté. Je serais très curieuse de connaître vos réactions. N'hésitez pas à venir m'en parler par mail, en DM sur Instagram ou sur Facebook. Dans tous les cas, je partage absolument tout avec mon invité. Donc si vous avez quelque chose à envoyer à Max, n'hésitez pas. Également, j'en profite pour vous dire que On The Verge est en compétition officielle au Paris Podcast Festival dans la catégorie conversation. C'est déjà incroyable d'être sélectionné dans cette compétition. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Tout ça n'arriverait pas sans vous, évidemment. J'en profite pour vous dire que le podcast est également en compétition dans la catégorie mon podcast préféré. Et là, c'est le grand public, donc c'est vous qui pouvez faire gagner On The Verge. Donc tout est sur le site Paris Podcast Festival. Donc n'hésitez pas à aller voter pour On The Verge. Ça prend approximativement 10 secondes. Merci encore et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.